les droits de l'enfance et l'éducation. Votre magazine vous parle de comment protéger le sol de la pollution plastique à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du sol. Cette journée a lieu chaque année le 5 décembre afin d'attirer l'attention sur l'importance d'un sol sain et de plaider en faveur d'une gestion durable des ressources en matière de sol. Est-ce que les jeunes comprennent l'importance du sol et savent pourquoi devons-nous le préserver? À quel point la pollution plastique nuit-elle à notre sol? Qu'est faire pour réduire l'usage du plastique? Toutes ces questions trouvent des réponses dans ce magazine Banokapi que je vous propose de suivre. Sarah Sombela est à la présentation de ce magazine, une mise en onde de Debso Vita, une réalisation de Gisèle Cage sous la supervision de Jean-Marc Omatoki Mofelele Dijana. Puisque le menu est déjà connu, ouvrons donc le bal de ce magazine. Pour ceux qui nous prennent encore des diffusions, sachez que vous êtes à l'écoute du magazine Bana Okapi, qui vous parle de comment protéger le sol de la pollution plastique dans le cadre de la Journée mondiale du sol. À Kinshasa, il est devenu monnaie courante d'observer d'énormes couches de bouteilles plastiques usagées dans des cours d'eau, des déchets qui s'accumulent au fil de jours et créent un énorme problème de pollution environnementale et surtout du sol. Le plastique est un vrai fléau pour cette ville, dû surtout à une mauvaise gestion et à un usage excessif de ses contenants. Grâce au réseau, a rencontré quelques jeunes de Kinshasa qui nous décrivent la pollution plastique dans la ville de Kinshasa, nous parle également des causes de cette pollution et nous propose même des pistes de solutions à ce problème. Suivez.
Pour moi, la ville de Kinshasa est très sale, énormément sale. C'est un pays qui a beaucoup de richesses, mais elle est très sale en jetant des déchets. Pour moi, la ville de Kinshasa, elle est non civilisée. Même si ils sont, genre, on a placé les corbeilles là pour jeter les déchets à l'intérieur, mais la personne est tout près du corbeil, mais il préfère jeter par terre. On essaie de faire civiliser les gens qui sont à la ville, mais ils se comportent comme si les gens qui sont au village. Pour moi, c'est non civilisé. En plus, les déchets, on a déjà trouvé des solutions dans les autres avenues, il y a les corbeilles, mais les gens préfèrent jeter par terre que jeter dans les.
La ville de Kinshasa est trop sale. Il y a des corbeilles pour jeter les plastiques, mais les gens préfèrent les jeter dans le sol. Ils prennent les gîtes, préfèrent jeter ça n'importe où. Si ça ne dépendait que de moi, qu'on puisse sensibiliser la population de mettre chaque avenue les corbeilles pour bien sauvegarder notre environnement pour les rendre très propres.
Le plastique, déjà, ça pollue le sol et en plus, quand ça devient trop, ça peut faire une colonie et tout, même une montagne, et ça peut créer des trous. Et dans le caniveau, il y a des. Au lieu que l'eau entre dedans dans le caniveau, ça entre de passer sur le macadam et ça dérange aussi. C'est ça aussi qui crée l'inondation.
Le plastique rend les sols pollués, ça rend les sols sales. En voyant comme ça, c'est comme si on était dans une poubelle et pourtant nous sommes dans un milieu qui est car les gens habitent à l'intérieur. On habite là-bas, mais on ne peut pas habiter là où il y a les plastiques, partout les déchets. Ça pollue les sols.
Les plastiques, normalement, ça ne permet pas que l'eau puisse entrer dans les sols. Au fur et à mesure que l'homme enterre les plastique sous le sol, ça donne le réchauffement climatique. De plus en plus, ça produit des inondations. Pour moi, je préférais que l'homme puisse broyer les plastiques au lieu d'enterrer sous le sol.
Et ça produit beaucoup de maladies. Il y a les maladies qui se transmettent seulement dans l'air. Dès que vous recevez cette air-là, vous avez la maladie. Quand on jette comme ça, ça produit la maladie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de moustiques, la typhoïde, c'est causé par des plastiques aussi.
Déjà, on ne peut pas juste dire que c'est les autorités du pays qui ont tort ou bien qui ne font pas leur travail. J'en ai déjà vu de fois qui sont en train de nettoyer. Mais étant donné que la population Kinshasa ne sont pas très bien civilisés, sont des inciviques, ils sont inconscients, il faut plus la sensibilisation. Car déjà, on peut venir nettoyer cette semaine ici, mais dans un mois, ça va redevenir sale parce que quelqu'un, il peut voir la poubelle là, mais il a la flemme et tout, il jette ça seulement là. C'est pas totalement le gouvernement qui a tort, c'est plus le peuple. On devrait plus sensibiliser là, montrer les conséquences.
Pour moi, premièrement, on doit d'abord, nous les Congolais, changer de mentalité. Notre mentalité est trop basse, au point que on a mis la corbeille là, les autorités, ils avaient fait les kinbopé, ils ont mis des corbeilles, des poubelles, mais la poubelle est tout près de toi, tu préfères jeter les déchets par terre. Nous devons changer notre mentalité et les autorités doivent aussi sensibiliser.
Le gouvernement a chargé des gens pour nettoyer l'environnement. l'environnement ainsi que nos avenirs. Mais nous, les Kinois, on a une mentalité là de jeter des histoires par-ci, par-là, même dans nos maisons. Il faut que l'homme ait une capacité de contrôler son environnement. Puisque nous jetons les plastiques, après une année, trois ans, nous recevrons les maladies.
Moi, je trouve aussi qu'on doit mettre les systèmes de gifler les gens, enfermer les gens, oui. Parce que je trouve que les Congolais, ils sont genre qu'on leur donne une punition là sévère. On t'attrape en train de jeter les saletés par terre comme ça, on te fouette vraiment jusqu'à ce que tu ne puisses pas reconnaître ton état. Tu te retrouves à l'hôpital et puis on t'explique pourquoi tu te retrouves à l'hôpital comme ça. Les gens auront peur de jeter les saletés par terre.
Pour moi, je préfère plus qu'on met aussi des amendes. On met des chargés de sécurité, des propriétés. Si on attrape la personne, qu'on la mène en prison, un parquet et tout, en attendant qu'il paye. Alors, il faut que le gouvernement d'abord soit plus sévère avec les gens qu'ils mettront et aussi à la population. Okapi, Okapi.
Comment protéger le sol de la pollution plastique? Certains habitants de Kinshasa réfléchissent sur le piste de solutions pour en finir avec le plastique dans le sol. C'est le cas de M. Justin Landau qui nous propose une solution au micro de Grâce Ouézolo.
Pour éliminer le plastique qui remplit la ville de Kinshasa. Et pour moi, je donne d'abord l'exemple de ce qui se passe chez moi, et là où je vis avec mes enfants. Justement, les enfants prennent des jus. Après, qu'est-ce qu'on fait? On ramasse tous ces plastiques-là. Il y a un sac, les gros sacs-là. C'est là où nous mettons tous ces plastiques. On les dépose là-bas. Ce qu'on fait là, nous faisons quoi? Pour ma petite famille, et quand nous prenons des jus et quand nous prenons en terre à boire, justement, on ne jette pas ces plastiques en désordre comme ça. On le met dans un sac là, c'est là où on les dépose. On les met non loin de notre poubelle. Parce que y a des gens qui passent, qui ramassent ça, qui les vend. Quelque part, on utilise ça aussi pour fabrication des carreaux là, ainsi de suite. Alors, je crois avec la communauté, et surtout là où je passe mon temps, nous encadrons les enfants en situation difficile. On parle Kinshasa, la ville sale. Et qu'est-ce qu'on fait pour lutter avec des moustiques et tout ça? Donc, nous prenons aussi les enfants de la communauté. Parce que nous, nous hébergeons les enfants. Ces enfants aussi, nous les prenons toujours comme j'ai fait à mes enfants. Donc, tous ces déchets-là, on les met dans un sac et il y a passage des gens qui ramassent ces bouteilles-là. Dès qu'ils viennent, ils prennent ça et même ils savent là où ils vont aller déposer ça. Donc, voilà ce que nous, nous faisons pour les déchets des plastiques. À tous ces parents qui me suivent, moi, je vous conseille vraiment d'inculquer aux enfants de ne pas jeter les plastiques n'importe où. Montrez aux enfants là où ils vont déposer ces plastiques pour ne pas inonder la ville de Kinshasa. Et prenons seulement l'exemple de notre rivière de Kalamu. Non seulement Kalamu quand même, mais la rivière Angile. Quand il pleut, tous ces plastiques-là vont flotter jusqu'à la rivière. Et maintenant, dès que ça arrive là quelque part, ça va maintenant permettre que l'eau ne puisse pas couler comme il faut. Aider les jeunes garçons, les jeunes filles ou les autres qui prennent vraiment en considération les déchets de gestion des plastiques, de leur vraiment parler que non, si nous jetons ça en désordre, on ne sait pas là où il faut aller les déposer, ça va inonder la ville. Et là, nous aurons encore des problèmes très sérieux. Montrez les amis ou les autres parents que l'inondation des déchets plastiques dans la ville de Kinshasa va créer un problème des caniveaux. Ça sera bouché. Donc, vous voyez des risques que ça va nous amener dans des accidents, ainsi de suite. Alors, c'est pour cela, dès qu'ils informent au moment que voilà, là où il faut déposer ces déchets-là, plastique, et il y a des gens qui sont censés les ramasser, les prendre ça pour aller déposer ça là où il faut aller déposer. Je crois que la ville de Kinshasa ne va pas arriver à ces risques-là d'inondation.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal Plus au canal 572 pour Radio Okapi. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir. Nous recevons Grâce Ouézolo qui reçoit pour nous un enseignant avec qui il parle de comment inculquer aux enfants les notions de gestion de déchets.
Monsieur Boka Faustin, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes enseignant des sciences de la vie et de la terre, SVT en sigle, à l'Institut Notre-Dame de Fatima à Kinshasa, Gombe. Est-ce que vous enseignez la notion de gestion des déchets aux élèves?
Oui, ça, c'est une des leçons qui est réservée aux élèves de l'option scientifique. C'est là où on donne une partie donc, de cette notion-là pour monter déjà au futur scientifique de notre pays, comment ils peuvent gérer aujourd'hui les déchets qui dérangent aujourd'hui en quelque sorte la vie de Kinshasa ou en général la RDC.
Et pour les autres sections ou les autres options, qu'est-ce qui est prévu?
Les autres options, ils ont tout un programme national que le gouvernement a élaboré. Nous sommes soumis à suivre ces programmes-là. Par exemple, dans les options telles que hôtesse, telles que hôtellerie ou des branches à caractère commercial, là, rarement on verra ces cours-là. C'est souvent dans les options à caractère scientifique qu'on est en train un peu de mettre en priorité ces cours-là de la gestion des déchets.
Et à l'école primaire et en 7e et 8e année, en éducation civique et morale, la gestion des déchets est prévue?
Oui, mais c'est beaucoup plus approfondi dans les deux cours dont je vous ai parlé là. Donc, les cours de l'anatomie et de la botanique, vers la fin, on a introduit des notions à ces enfants-là de 12 à 14 ans, comment ils peuvent gérer les déchets dans la vie.
Quelle est la méthode utilisée pour dispenser ces cours?
Donc, actuellement, depuis 4 ans ici ou 5 ans, on est en train un peu de reformuler un peu les programmes nationaux. Alors, c'est à partir de là qu'on a changé des méthodes d'enseignement. Auparavant, c'était l'enseignement par objectif, mais actuellement, on utilise la méthode de l'enseignement par situation. Dans cette forme d'enseignement actuellement, c'est l'élève lui-même qui découvre ce dont il s'agit comme matière et propose lui-même aussi des solutions à ces contenus matières que l'enseignant leur donne.
Alors, comment inculquer les élèves la notion de la gestion des déchets à partir de la maison?
C'est une question qui aura plusieurs réponses, hein, parce que la société ne s'arrête pas à l'école. D'abord, elle commence d'abord à la famille. Donc, c'est aux parents, dans un premier temps, déjà, quand il est en train de balayer, de montrer à ses enfants, la maman ou le papa, peu importe, il a mangé quelque chose, au lieu de jeter sur le pavement, il doit déjà montrer aux enfants que ce que j'ai fait ici, après avoir mangé, après avoir vu tout ce qu'il y a de déchets, il faut les prendre et aller les jeter dans la poubelle. Nous, maintenant, nous sommes les prolongements de la famille. À notre niveau, il y a des travaux pratiques que nous donnons aux enfants. Nous leur demandons d'aller observer sur la route comment est-ce que les déchets plastiques qui dominent actuellement, par exemple, la ville de Kinshasa, est en train de joncher dans les rues et comment est-ce qu'ils peuvent être capables de les récupérer et d'aller les jeter dans la poubelle. Bon, c'est un problème d'éducation, comme je venais de vous dire. Ce n'est pas facile que même si, à notre niveau ici, nous inculquons ces enfants d'être un peu beaucoup plus pragmatiques, mais les mentalités n'ont pas vraiment encore évolué. Si les mentalités évoluaient, je crois que on arriverait à évacuer une partie des déchets par nous-mêmes. Mais comme les mentalités de nos contemporains semblent être un peu rétrogrades, parfois ils se disent, c'est un problème de l'État, ça ne nous concerne pas. Alors nous, maintenant, au niveau de l'école, nous insistons en faisant des pratiques au niveau de l'école. Pour que l'école puisse rester toujours propre, on demande à ces élèves-là de ne pas jeter les papiers ou je ne sais pas quoi, n'importe quel déchet qu'ils ont utilisé sur le pavement. Ils sont obligés, dans chaque classe, on a mis des poubelles pour qu'ils aillent jeter ça là-bas. Et à la fin de la journée, le responsable chargé de la traitière de la classe va amener ça dans la grande poubelle de l'école et pendant le week-end, il y a un véhicule qui vient les prendre pour aller le mettre dans les endroits appropriés.
Quel est le comportement de vos élèves particulièrement face aux déchets en plastique?
Au départ, quand les cours-là n'étaient pas vraiment encore valorisés au niveau de l'école, mais quand ils terminaient à boire leur jus en plastique, ils jetaient la bouteille en plastique dans la cour de l'école et puis ils partaient dans leur classe tout bonnement. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué qu'après qu'ils aient bu ces jus-là, ils se dirigent directement dans la grande poubelle de l'école pour aller les jeter. Même s'il n'y a pas de cas rares, certains élèves continuent quand même à se comporter comme à l'époque. Ils jettent, où ils partent, mais ils sont de mieux en mieux conscients. Et ils sont d'ailleurs aussi au rassemblement Martyr Sirsa, parce que ça commence à devenir un problème planétaire, ces déchets plastiques-là. Et les enfants commencent à en prendre un peu conscience.
Quelle est la punition réservée aux élèves qui jettent des bouteilles en plastique par-ci, par-là?
Bon, comme tel, il n'y a pas une décision pénale, hein, mais il y a toujours des décisions éducatives. Si on t'attrape, la journée-là, tu vas rester d'abord à l'école et c'est toi qui vas ramasser toutes les bouteilles qui étaient restées pour aller déposer ça dans la grande poubelle de l'école.
Avez-vous les endroits appropriés pour jeter les déchets, particulièrement dans votre école?
Tout à fait. Depuis longtemps, on a eu toujours des endroits appropriés. Le problème, c'est que parfois, faute de moyens, ces endroits-là sont surchargés par rapport à leur capacité. Alors, il y a des fois, bien que les poubelles sont là, mais vous verrez tout aux alentours, il y a toujours des bouteilles en plastique. Le problème maintenant, c'est quoi? Il faut qu'on puisse un peu doter l'école de moyens pour que l'évacuation soit le plus rapidement et la plus régulièrement possible. Comme ça, l'endroit là qui était réservé pour jeter les immondices et les déchets plastiques puisse être toujours un peu libéré à temps.
Pensez-vous que si l'on intègre les notions d'écologie et de gestion d'immondices dans l'éducation des bases, cela peut résoudre les problèmes d'insalubrité dans les différentes villes de la République démocratique du Congo?
C'est possible, mais c'est un processus. C'est un processus puisque ça doit prendre quand même du temps. Et puis, ce n'est pas un problème à réserver seulement aux élèves au niveau de l'éducation. De base, je ne pense pas que la proportion de ces élèves-là par rapport à la démographie de ces villes-là correspondait vraiment à résoudre les problèmes. Mais au moins, c'est déjà une piste de solution que nous puissions un jour habiter dans des villes qui sont propres, notamment en luttant contre ces déchets plastiques qui sont nuisibles pour l'environnement dans lequel nous vivons.
Monsieur Boka Faustin, merci.
Merci, monsieur le journaliste.
Chers auditeurs, bouclons cette première partie de votre magazine et on se retrouve dans la seconde partie du magazine Bana Okapi.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Quel plaisir de vous retrouver pour la seconde partie de votre magazine préféré, le magazine Bana Okapi. Pour ceux que nous prenons cours de diffusion, sachez que Bana Okapi, de ce jour, vous parle de comment protéger le sol de la pollution plastique à l'occasion de la Journée mondiale du sol. Cette journée a lieu chaque année le 5 décembre afin d'attirer l'attention sur l'importance d'un sol sain et de plaider en faveur d'une gestion durable des ressources en matière de sol. Restez avec nous et ensemble nous allons découvrir quels sont les dangers du plastique dans le sol, comment préserver les sols et surtout comment bien gérer le déchet plastique. À la présentation de ce magazine, je suis Sarah Soumbela, une mise en onde de Deps Vita et Didone Nyangasa, une réalisation de Gisèle Cage sous la supervision de Jean-Marc Matouaki Mofelele Dijano. Toute l'équipe Bana Okapi vous a concocté ce magazine grâce aux Vézolo, Rachel Kessé, Ezekiel Mouzalia, André Kitenge, Jeff Opela, Grévis Salomo, Guylaine Kassassia et Stanislas Diomi. Nous lançons cette seconde partie. Oh, oh, oh. Comme vous le savez, la deuxième partie de notre magazine est réservée à nos invités. Le premier est M. Niébone Faustin, environnementaliste, pionnier dans la lutte contre la pollution plastique. Dans cet entretien avec Jeff Opela, il nous parle du danger de plastique sur le sol, mais aussi de quelques propositions pour réduire l'usage de plastique.
Bonjour Monsieur Faustin Niébone.
Bonjour aussi Monsieur les journalistes.
Sommairement, qu'est-ce qu'on peut retenir de la pollution plastique sur les sols?
Merci beaucoup. Les plastiques polluent les sols à plusieurs niveaux. D'abord, les plastiques étant des matières difficilement biodégradables, comme ces plastiques sont imperméables par l'eau, hein, alors lorsqu'ils sont dans les sols, ils empêchent l'infiltration de l'eau des pluies jusque dans les sols, ainsi arriver au niveau des racines des plantes. Ça, c'est un premier aspect lié à la pollution du sol par les plastiques. Un deuxième aspect est que dans les plastiques, il y a des métaux lourds comme stabilisants, notamment les cadmium et le plomb, qui sont toxiques. Alors, ça va rester dans les sols lorsque les plastiques seront en contact avec les ultraviolets et l'eau des pluies acides. Alors, ça fait en sorte que ces métaux lourds vont se retrouver dans les sols. À part ces métaux lourds, il y a aussi les retardateurs de flammes qu'on trouve dans les plastiques, qui sont aussi des additifs toxiques. Et finalement, tout ça va polluer les sols. Et c'est de cette façon, de façon simple, comment les plastiques arrivent à polluer les sols.
Et quelles en sont les conséquences?
Ok, les conséquences, il y en a beaucoup. On va citer seulement quelques conséquences. Parce que vous voyez, par exemple, ces métaux lourds qu'on trouve dans les sols, qui sont toxiques, finalement, les plantes peuvent absorber cela. Et finalement, ça va se retrouver dans les aliments. Alors, autre source de pollution, parce que si ces métaux lourds sont dans les sols, ces additifs toxiques, on peut m'ajouter à cela lorsqu'on brûle les plastiques. Si vous avez 100 kg qu'on a brûlé, il y aura 30 kg de cendres toxiques. Alors tout ça peut être entraîné par l'eau de ruissellement. Finalement, ça va se retrouver dans les eaux et finalement, on peut encore boire cela et même contaminer la chaîne alimentaire. Et avec toutes ces conséquences sur la santé que vous pouvez imaginer.
Mais vous, en tant qu'environnementaliste, y a-t-il des solutions pour réduire sensiblement l'usage des plastiques?
Ok, il y a plusieurs dimensions où il faut vraiment réduire la pollution plastique. Par exemple, il faut penser aux emballages de substitution, il faut penser à cela. Mais aussi réduire la dépendance inutile au plastique. Parce qu'on a laissé de bonnes habitudes, les anciennes habitudes avant l'avènement des plastiques. Si on pouvait encore revenir à cela, ça peut diminuer la dépendance inutile au plastique. Je donne seulement un exemple. Ouais, par exemple, nous, quand on a grandi, les militaires avaient des gourdes. Ouais, une gourde dans laquelle un militaire pouvait mettre de l'eau et boire ça régulièrement avec une réutilisation. Même les militaires ont laissé les gourdes pour aussi prendre les bouteilles. Donc, ça sont des comportements qu'on avait avant qui peuvent réduire la dépendance au plastique au même moment quand on fait la réutilisation. Vous imaginez une gourde qu'on utilise une année, c'est combien de bouteilles plastiques qu'on a réduit. Donc, de tels comportements, donc réduire une dépendance inutile, là où ce n'est même pas vraiment important d'utiliser ces plastiques. Donc, ces changements de comportement, ajouter à cela aux emballages de substitution, ça peut conduire petit à petit à éliminer le plastique et par conséquent cette pollution du sol.
Est-ce que les ménages n'ont pas un rôle à jouer également lorsqu'on utilise ça et la mentalité, la population elle-même ne veut pas être responsable?
Oui, c'est ça. Donc ça, c'était seulement un exemple avec les militaires. Même les mamans, vous imaginez nos mamans ici à Goma, même pour acheter l'huile de palme, c'est toujours les emballages en plastique et pourtant avons utilisé une bouteille plusieurs fois. Mais lorsqu'on utilise un sachet là plastique avec l'huile de palme, on arrive seulement une fois retiré l'huile, on jette. Ouais, ces comportements n'étaient pas avant. Donc, il y a une dépendance là inutile au plastique et pourtant ça nuit vraiment gravement à la santé. Donc, toute la population, si on pensait à l'avènement avant le plastique, mais on vivait très bien. Alors, si on change de petit à petit mentalité, réduire la dépendance inutile au plastique, ça peut être déjà un pas petit à petit vers cette élimination des plastiques.
Dans ce cas, M. Faustin, quelle est la part du gouvernement dans cette lutte pour éliminer complètement le plastique du sol, avec toutes ces entreprises qui produisent ce plastique dans la capitale, même dans les secteurs?
Merci beaucoup. Il y a par exemple les textes légaux que le gouvernement a déjà produit. Déjà, les premiers textes étaient sortis en 2002, là, on avait interdit les emballages en plastique. Ce n'était pas appliqué. Après ça, en 2017, il y a même un décret du Premier ministre où on avait même donné un délai moratoire de 6 mois. Après ça, ce n'était pas appliqué. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas vraiment de rigueur. Et pourtant, dans d'autres domaines, on a vu la rigueur lorsqu'on luttait contre le Covid-19. il y a des arrêtés qu'on a appliqués. Si vous n'avez pas le masque, on t'emprisonne, tu payes l'amende. Et les gens s'appliquaient facilement. Donc, à ce niveau, il y a des textes, mais pas de volonté politique à ce niveau. Aussi, il faudrait que le gouvernement fasse la promotion des emballages de substitution. Pourquoi ne pas exonérer ces emballages-là pour que ça arrive à grande quantité et que ça soit accessible à un prix même inférieur par rapport aux emballages en plastique. Donc à ce niveau-là, le gouvernement peut exonérer, faire la promotion des emballages vraiment biodégradables. Et il y a aussi récemment Madame la Première Ministre, vice-ministre aussi de ministre de l'Environnement, a fait sortir un communiqué pour appliquer la Convention de Bâle. Donc la Convention de Bâle, c'est cette convention qui réglemente les mouvements transfrontaliers des déchets. Alors, dans ce communiqué, le ministre a mis seulement l'accent sur les déchets électroniques. Alors, pourquoi ne pas étendre ce communiqué sur les emballages aussi plastiques? Parce que ça vient d'autres pays. Ce n'est pas le Congo qui produit ça. Ça vient d'autres pays. Donc, si on appliquait cette convention de Bâle, où le ministre pouvait étendre ça, pouvait étendre ce communiqué, même aux emballages plastiques, parce qu'ils sont aussi toxiques, selon la convention de Bâle, ça peut aussi réduire. Donc, on travaille en amont et en aval. On réduit à partir de l'entrée et aussi on réduit à partir de l'intérieur. Je pense que si le gouvernement pouvait faire appliquer ça, ça peut aussi contribuer à réduire la prolifération et même la pollution par le plastique.
Très important, Monsieur Faustin. Que proposez-vous, hein? Il y a beaucoup de propositions que vous avez déjà données, mais particulièrement aux familles, aux ménages, après avoir utilisé les bouteilles, les plastiques, comment les garder ou les jeter pour ne pas que ça pollue le sol.
Ok, maintenant ici, retenez ceci. Donc, les gens pensent que les plastiques, c'est seulement une question d'insalubrité. Que le plastique devient problème lorsque vous les jetez. Non. Le plastique contient, c'est un problème même lorsque vous les gérez au niveau des ménages. Un exemple. Vous avez seulement une bouteille d'eau minérale contenant de l'eau. Vous exposez ça au soleil. Les ultraviolets vont dissoudre les additifs toxiques et vont se retrouver encore dans l'eau. Un gobelet à plastique, vous y mettez de l'eau chaude ou du thé, ça va dissoudre les additifs toxiques, ça va vous intoxiquer. Ou même un gobelet en plastique, vous y mettez les jus acides, tels que les jus de citron, les jus de tomate, c'est pas l'orange, mais ça va dissoudre ces additifs-là, ça va nous intoxiquer. Donc là, vous comprenez que le plastique nous intoxique, pollue le sol, intoxique notre santé tout au long de son cycle de vie avant qu'il ne soit même déchet. Parfois, on pense que non, le recyclage, il faut penser à ça. Oui, le recyclage a beaucoup de faiblesses. C'est seulement 10 à 20% des déchets plastiques qui sont recyclés. Les autres se retrouvent dans l'environnement. Et même le recyclage n'empêche pas que le plastique vous intoxique, même au niveau des ménages, et d'ajouter que tous les plastiques ne sont pas recyclable. Donc vous comprenez que les plastiques, les problèmes de plastique, c'est un problème de santé. C'est un problème de santé, c'est un problème de vie et de mort. Mais lorsque vous savez que ça, si j'utilise ça, ça va nuire à ma santé, même si j'ai jeté ça sur le sol, ça va encore polluer le sol, ça va encore se retrouver dans mon plat, dans la nourriture. Mais on va faire un effort pour réduire. C'est ça l'approche durable. Réduire la dépendance inutile au plastique. Au même moment, là, ça va jouer sur la production. Lorsqu'on va produire, on ne trouve pas les utilisateurs. Et finalement, le fabricant aussi va diminuer la production. Et là, on va aller petit à petit vers la solution durable. En fait, c'est ça ce qu'on voulait dire aux communautés. Donc, petit à petit, allons vers la vie avant le plastique, quand le plastique n'était pas encore là. On vivait aussi très bien.
Merci, Monsieur Faustin.
Merci beaucoup. Merci aussi de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur de parler à vos micros.
Okapi. Encore plus d'infos.
Spéciale journée mondiale du sol. Comment protéger le sol de la pollution plastique? Que devons-nous retenir de cette journée du 5 décembre où le monde célèbre la Journée mondiale du sol? Jeff Opela reçoit pour vous Monsieur Henri Paul Eluma, assistant du représentant de la FAO, chargé de programme qui répond à cette question et à bien d'autres.
Monsieur Henri Paul Eluma, vous êtes assistant du représentant de la FAO chargé de programme. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, le monde célèbre la Journée mondiale du sol. Quelle est donc son importance?
Bon, le sol, c'est le substrat sur lequel nous produisons l'agriculture. Pour en faire, essentiellement, il faut qu'il y ait du sol. Ben, c'est vrai que depuis un certain temps, on peut faire de l'aquaponie, on peut faire de l'agriculture hors sol, mais quoi qu'il en soit, ce que nous faisons depuis des siècles, c'est cultiver sur le sol. Donc, la disponibilité du sol pour la culture et le sol que l'on dit arable, c'est-à-dire celui qui est capable de produire de l'alimentation, de la production végétale, c'est important. Il faut qu'il soit disponible et il est disponible en qualité. C'est la qualité du sol, le type d'éléments chimiques qu'il y a là-dedans. Et il faut aussi qu'il soit disponible dans le sens d'appropriation juridique. C'est-à-dire que les gens puissent, s'ils sont agriculteurs, qu'ils aient un sol sur lequel ils peuvent faire l'agriculture sans beaucoup de contraintes.
Alors, quelles sont les causes et les dangers que représente le plastique sur le sol?
Bon, Monsieur Opela, avant de parler de danger, il faut dire que on utilise le plastique, c'est un allié. Le plastique, au départ, c'est un allié de l'agriculture. Dans des régions où il fait très froid et qu'il faut peut-être faire de la culture tropicale, on crée ce qu'on appelle des serres. Les serres sont constituées à travers des bâches et ça, c'est du plastique que l'on utilise. Ailleurs, dans certaines autres circonstances, par exemple, lorsqu'on veut cultiver des arbres, on fait germer des graines, des plantules dans du matière plastique, des sachets plastiques, hein, dans le pépinière. Donc, ça sert. Même dans la chaîne de valeur, on peut emballer les fruits à l'intérieur de films plastiques, des choses comme cela. Mais, malheureusement, tout excès nuit. Nous sommes dans une situation où il y a ce qu'on appelle saturation. La présence de plastique dans les sols est en saturation, non pas seulement dans les sols, et même dans les eaux. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'il y a beaucoup de matière plastique sur le sol, vous savez que le matière plastique met du temps à se résorber. Il peut faire 100 ans sans se résorber. Voilà. Et donc, là où il se trouve, ils ne permettent pas que l'eau s'infiltre. Quand il pleut, voilà, en principe, l'eau devrait s'infiltrer, une partie de l'eau de pluie doit pénétrer les sols et aller nourrir les nappes souterraines. On appelle ça l'infiltration. Lorsqu'il existe beaucoup de plastique sur le sol, l'eau ne s'infiltre plus. Et lorsque l'eau ne s'infiltre plus, l'eau a tendance à couler. Il arrive ce qu'on appelle le ruissellement. Et lorsqu'il y a le ruissellement, il y a les dangers d'érosion, des décapements. De l'humus et donc appauvrissement du sol. Et je parlais de la mer, il y a aussi des matières plastiques que l'on jette dans la mer, les micro-plastiques, c'est-à-dire des résidus tout petits, entrent dans l'alimentation des poissons par exemple, et ça nous revient, donc lorsque nous mangeons les poissons, nous les ingurgitons, et ce sont des polymères qui ne sont pas utiles pour le corps et qui peuvent même causer des ennuis dans le corps, des maladies auxquelles nous n'étions pas habitués par le passé.
Donc on peut parler de la pollution sur les sols que lorsqu'il y a beaucoup de plastique, donc il y a excès de plastique dans les sols ou dans l'eau, ce qu'on peut retenir.
Non, il y a pollution puisque, comme je venais de dire, le plastique n'est pas une matière que les sols tolèrent, puisque les sols tolèrent toute matière qu'il peut résorber. Prenons par exemple les épluchures de bananes, vous le jetez dans le sol, dans une poubelle par exemple, je pense que deux semaines, un mois après, ça rend même fertile le sol. Ce qui n'est pas le cas pour le matière plastique. Ne se résorbant pas, il reste longtemps dans le sol et cause tout le déboire que je viens de citer. Par exemple, ne pas permettre l'infiltration de l'eau dans le sol et pourtant,
le sol a besoin de l'eau pour rester fertile.
Exactement.
Et pire, lorsque cette eau n'est pas résorbée, elle circule et en circulant, elle érode le sol.
Alors,
et donc, elle diminue sa capacité de production.
Mm-hmm. En ce jour où l'on célèbre la journée mondiale du sol, Monsieur Henri-Paul Iloma, quel est l'apport de la FAO pour la protection du sol contre la pollution plastique?
La question du plastique figure parmi les grandes priorités environnementales.
Mmh.
Et la FAO assiste le pays dans le cadre de concertation à faire des propositions pour élaborer des traités qui permettent qu'on élimine la pollution plastique.
Mmh.
La pollution. Nous n'avons pas dit qu'on élimine le plastique, mais qu'on élimine la partie production du plastique.
Mmh.
Voilà. Et cela, par exemple, certains pays, avec l'appui de la FAO, vont jusque, par exemple, à interdire l'importation de plastique. Sinon, les politiques que la FAO suggère au gouvernement, c'est que le gouvernement puisse favoriser d'utiliser d'autres matières, par exemple du papier qui peut se résorber beaucoup mieux. Sinon, il ne faut pas les importer. Et surtout, le recycler. On peut recycler le plastique. C'est ça l'avantage. C'est-à-dire que nous voyons, par exemple, dans nos rivières après la pluie, autant de bouteilles de plastique qui servent pour conditionner de l'eau potable, mais cette matière-là est réutilisable. Et lorsqu'elle est réutilisée, si on pouvait les collecter et les réutiliser, nous n'aurons pas le spectacle que nous avons souvent après les pluies sur nos rivières avec autant de matières plastiques. Donc la FAO aide le gouvernement à promulguer des politiques qui permettent l'élimination de la pollution de plastique.
Alors, Monsieur Henri-Paul Iloma, quel est le message que vous pouvez lancer aujourd'hui à la population congolaise en ce qui concerne la pollution plastique sur le sol?
Le plastique, c'est une matière réutilisable.
Mm.
Alors, qu'est-ce que nous allons conseiller aux populations? C'est, dans la mesure du possible, le réutiliser. Mais on ne peut pas le réutiliser à l'infini.
Mm.
Ils finissent par produire de la dioxine. Alors, qu'est-ce qu'il faut jeter n'importe comment? Les jeter sur le sol, je voulais dire l'infiltration. Les jeter dans les caniveaux, c'est ne pas permettre l'écoulement des eaux et donc favoriser les inondations. Nous vivons de cela. Et donc, les conséquences de la pollution de plastique devraient nous conseiller. Et la FAO ne viendrait que pour inciter par rapport aux conséquences, pour dire à la population, ne les accumulez pas n'importe comment, soumettez-les à des institutions ou à des organisations qui peuvent le réutiliser, ne les jetez pas n'importe où, dans sa propre parcelle, ça peut plutôt causer beaucoup d'ennuis. Voilà.
Merci Monsieur Henri-Paul Iloma. Je rappelle que vous êtes assistant du représentant de la FAO chargé des programmes. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci beaucoup Monsieur le journaliste.
Radio Okapi, le souffle du Congo. Rendons-nous à présent à Beni dans le Nord Kivu où une diminution significative de déchets plastiques est observée. Ce progrès est attribué à une initiative de recyclage lancée en 2022, transformant les déchets plastiques en pavés. Samuel Katembo, dans ses Kanabo, le directeur et formateur principal au Fine Factory Center, une structure locale de recyclage de déchets plastiques, salue cette avancée en faveur de la préservation d'un environnement sain. Dans cet entretien avec Guylaine Kassassia, il revient sur les objectifs atteints par ce projet et dévoile les perspectives pour renforcer cette initiative de recyclage.
Samuel Dosekanapo, bonjour.
Bonjour, merci.
Quel constat faites-vous par rapport à l'état actuel dans la ville de Beni de la pollution des déchets plastiques dans la région?
Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater la diminution des déchets plastiques de la communauté. C'est parce que il y a pas mal de gens qui nous ont emboîté les pas, pas seulement nous, mais aussi d'autres, qui ont compris que réellement nous devons aussi jouer sur la diminution des déchets plastiques dans la communauté, essayer de les récupérer, essayer de les ramasser, essayer de les trier, essayer de les recycler. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en train d'affaire aussi d'autres produits. Il y a ceux qui font maintenant des charbons écologiques, il y a d'autres ceux qui font des dallettes, d'autres ceux qui font des briques. Il y a même d'autres qui sont en train de les revaloriser en faisant aussi des sièges ou des chaises qui sont en train d'utiliser. Pour dire, aujourd'hui, nous sommes quand même fiers de voir que la ville paraît un peu propre, parce qu'au moins les déchets sont en train de diminuer sur la voie publique. Ça reste aussi de voir maintenant les quelques déchets qui sont encore dans la communauté, surtout dans des lieux de production grande quantité, dans des hôtels, dans des restaurants. Là aussi, il y a encore des déchets qui ne sont pas encore sensiblement diminués de les produire, mais sont quand même en train d'être recyclés petit à petit et ramassés sur la voie publique.
Comment avez-vous fait d'abord pour en finir avec ces déchets plastiques?
Ce que nous avons fait d'abord, nous avons présenté au monde que ces déchets est en train de nous créer des difficultés, vous savez. Et aujourd'hui, si nous ne luttons pas pour la bonne gestion de ces déchets, nous sommes en train d'appeler le désert vers nous. Et ce qui est vrai est que, avec le réchauffement climatique, il y a aujourd'hui, le changement de climat, même nos champs ne nous produisent plus comme bien avant, c'est parce que ces déchets nous mettaient en difficulté. Et aujourd'hui, nous avons essayé de lancer les messages. Et puis partout que nous avons intérêt à gérer rationnellement ces déchets, ceux qui nous ont compris, ceux qui ont compris ce message, ont aussi emprunté le même pas que nous. Ils sont aussi entrés dans la cadence et aujourd'hui, nous sommes fiers que les déchets commencent à diminuer dans la communauté.
Qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre structure pour transformer ces déchets?
Merci. Nous, à notre niveau, nous sommes en train de recycler ce déchet à dallettes, ce qu'on a l'habitude de dire les pavés écologiques. Et ce que nous faisons, nous ramassons d'abord les déchets dans la communauté, nous les ramassons sur les dépotoirs publics, nous les ramassons et puis partout dans des hôtels, nous les ramassons dans des ménages. Et à notre niveau, nous récupérons tous ces déchets-là, nous les amenons dans les centres de tri. Là, au niveau du centre de tri, nous trions les déchets biodégradables et les déchets non dégradables. Comme nous nous intéressons plus à des déchets non dégradables, donc les déchets plastiques, nous récupérons ces déchets plastiques, nous les ramenons vers les centres de recyclage. Et là, nous passons par d'abord la remise à belle de ces déchets, et puis nous faisons l'extraction de ces déchets, et puis nous les mélangeons avec du sable ou l'argile et selon la volonté de celui qui en a besoin. Et puis, nous les mettons en moule pour avoir des dallettes que nous mettons à disposition des consommateurs.
Vous avez des équipes pour rassembler ces déchets-là?
Nous avons des équipes qui nous aident à rassembler ces déchets. Aujourd'hui, nous sommes focalisés plus dans les quartiers de Kalinda. Et là que nous avons des équipes qui, aujourd'hui, passent ménage par ménage, même pour ramasser les déchets dans les ménages. Et nous avons aussi d'autres équipes que nous sommes en train de former. Ils ne sont pas encore aptes, mais nous sommes en train d'aller vers eux au niveau de Liakobo et Mukuria. Peu de temps, nous serons au niveau de Bundié Passissi.
Alors, vous avez parlé de produits, de dallettes, de chaises et d'autres. Est-ce que ces produits sont consommés ou rentables aux producteurs?
Merci. En fait, nos produits que nous produisons sont des produits qui sont efficaces, sont des produits qui ont la durée comme pas possible. Et si on évalue la durée de nos produits avec les pavés faits à ciment, il y a toute une grande différence. Et nos produits, avec tout ce que nous faisons, on utilise beaucoup d'efforts, on utilise beaucoup d'énergie, beaucoup de technologies. Ça nous pousse à mettre nos produits à un prix plus élevé que les pavés faits en ciment. Et c'est là qu'il y a le problème que plusieurs ne les utilisent pas tellement parce qu'ils pensent que le prix est un peu exorbitant. Mais ils oublient qu'en utilisant ces produits, ils contribuent aussi à l'assainissement de la ville.
Il y a une différence de combien de francs ou de dollars?
La différence, vous savez, le produit fait à ciment, le mètre carré est vendu à 5 dollars. Et nous, notre pavé, le mètre carré est vendu à $20. Et pour eux, les installer, c'est dans les frais de l'autre côté. Mais nous, pour installer nos pavés, et un mètre carré, on facture à $5. Donc, le tout, pour un mètre carré, il faut disponibiliser $25 contre plus ou moins 7,5 pour le pavé à ciment.
Peut-on dire que c'est un projet de longue durée parce qu'il y a encore du plastique? Parce qu'en cet temps, peut-être, comme vous l'avez dit, il y a quand même diminution des déchets plastiques dans la ville.
Oui, c'est un projet à longue durée parce que aussi longtemps que l'homme continuera à vivre, il va continuer à produire toujours des déchets. Et des déchets, surtout aujourd'hui, il y a ceux qui pensent qu'il faut qu'on change les emballages plastiques à des emballages non dégradables. Mais ce n'est pas facile à notre niveau. Ce qui est facile à retrouver, ce sont des emballages plastiques. Donc, aussi longtemps que les emballages plastiques seront produits, c'est-à-dire que ce projet aura toujours son impact dans la communauté.
À part l'objectif de rendre la ville propre, quel autre objectif vous poursuivez dans ce projet-là de recyclage des déchets plastiques?
À part l'objectif de rendre propre la ville, mais aussi nous sommes dans l'encadrement de la jeunesse des œuvriers. Vous savez, le jeune actuel n'a pas l'opportunité d'accès à des entreprises. Il y a aussi d'autres jeunes qui n'ont pas eu l'occasion d'étudier. Il y a des jeunes qui sont des déplacés, qui ont quitté leur milieu, ils sont réfugiés vers la ville de Beni. Et si Beni n'a pas trouvé l'occasion d'aller aux études, nous les encadrons. Et même le ramassage de déchets dans les ménages. Il y a des jeunes qui le font dans les ménages. Ils ramènent les déchets jusqu'au niveau du centre de tri. C'est juste pour les encadrer. À part l'encadrement de ce jeune-là, comme autre objectif aussi, c'est aussi promouvoir l'usage des matériaux de construction qui ont quand même la dureté. Parce que ces pavés à ciment et ces pavés à déchets, la dureté, ce n'est pas la même. C'est ça aussi d'autres objectifs que nous poursuivons.
C'est depuis quand que vous avez initié ce projet et qu'est-ce que vous avez vu au sein de la jeunesse que vous utilisez?
Nous avons commencé ce projet, c'était en 2022. Ça a été pas facile parce que à ce temps-là, nous n'avions que 5 personnes avec qui on travaillait. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec 23 personnes qui entrent déjà dans la cadence. Et ces 23 personnes sont travaillées avec depuis mi-2023. Et franchement, par rapport à leur succès dans leur vie, ils sont quand même, ils ont excellé par rapport à ce qu'ils étaient bien avant. Et nous nous en réjouissons de voir que ces jeunes qui ont pris ces activités comme leur champ de bataille, ils se retrouvent facilement.
Alors, Samuel Dosekanabo, quelle est votre perspective?
Notre perspective, c'est faire de notre travail bien industrialisé. Jusqu'à aujourd'hui, nous le faisons encore à la main. C'est ici que nous avons besoin des investisseurs, des entrepreneurs qui peuvent booster nos travaux pour que nous soyons à mesure de produire autant avec des machines. Parce que à la main, il y a beaucoup de soucis qui nous guettent. Il y a beaucoup de risques qui nous guettent. Mais si on utilise des machines, ça va nous faciliter facilement à produire beaucoup et ça va nous faciliter aussi même à diminuer les coûts. Parce que lorsque nous allons produire une grande quantité, nous serons même à mesure de donner les pavés à presque tout le monde. Donc, c'est ça ce que nous visons. Nous voulons qu'ici 2025, nous soyons à mesure d'avoir une machine pour broyer les déchets, que nous puissions avoir aussi une machine pour mettre dans des moules qui soient automatiques, que cela ne soit pas tellement manuel.
Lorsque vous parlez de risques, c'est quel risque par exemple?
Parmi les risques, il y a des risques d'intoxication. Vous savez, ces déchets, lorsqu'ils sont d'abord en état liquide, il y a beaucoup de risques. D'abord, ils produisent beaucoup de pétrolium. Et ce pétrolium qui est produit, c'est des toxiques qui peuvent déranger, qui peuvent abîmer les poumons. C'est un problème très sérieux. Il faut bien se protéger les nez, il faut bien se protéger les orifices du corps humain pour ne pas laisser passer ces toxines jusqu'à notre organisme. Autre chose aussi, lorsque nous mélangeons, il y a risque que ce liquide puisse déverser sur les pieds de quelqu'un et qu'il puisse être handicapé toute la vie. Donc, il y a beaucoup de risques que nous courons.
Samuel Dosikanabo, nous vous remercions.
À moi de vous remercier.
C'est par cet entretien que nous bouclons ce numéro du magazine Bana Okapi. Nous avons été heureux de vous le présenter. Il était question de comment protéger les sols de la pollution plastique. Ce sujet a été choisi à l'occasion de la journée mondiale du sol. Plusieurs pistes de solutions ont été proposées dans ce magazine, mais également de conseils pour préserver notre sol de la pollution plastique. Ce magazine est à réécouter sur le site de Radio Okapi, www.radiokapi.net ou sur la page Facebook Bana Okapi. Merci de votre attention soutenue à ce programme. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro du magazine Bana Okapi.